Toute création est le résultat de multiples inspirations, des sensations, des objets, des rencontres, des discussions et des lectures. Notre collectif, La Lecture Artiste, invite des artistes à une conversation sur les lectures qui nourrissent, cultivent ou bousculent leur processus créatif.
Lecture Artiste, Grégory Buchère.
J'ai dans la tête d'étranges choses qui réclament ma main et qui demandent qu'on les exécute avant de les examiner de trop près.
Le 24 octobre 2020, je suis allé rencontrer Grégory Buchère à La Baule, à l'occasion du festival Écrivain en bord de mer, où il présentait son premier roman, Malakoff, qui est paru chez Gallimard, dans la collection Verticale. Grégory a étudié à la Haute École d'Art du Rhin, il est ensuite passé par Le Frénois, Studio National des Arts Contemporains, pour finir par un post-diplôme à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Nous allons parler de son travail, de son premier roman et de ses lectures. Grégory, tes travaux plus anciens sont essentiellement des productions d'images, de photographies et de films. En 2015, tu crées le Musée Domestiqué, une conférence performée qui recense des histoires d'œuvres d'art n'ayant jamais fait l'objet d'acquisition. Un récit où s'entremêlent des voix, des souvenirs d'exposition, des histoires de poussière, de bricolage et d'héritage. Un récit très écrit. Et puis cette année est paru ton roman Malakoff. Est-ce que l'écriture de ce roman est un aboutissement pour toi ?
Une forme d'aboutissement, oui, dans le sens où mon travail plastique a toujours été impulsé par des auteurs de romans, que ce soit Italo Calvino, que ce soit, alors bon, ça c'est pas un roman, mais Homère et enfin l'Odyssée d'Homère. Un livre comme Thésée aussi, qui est une biographie imaginaire de Thésée, écrite par André Gide. Donc voilà, le livre et les romans ont toujours impulsé mon travail de vidéaste ou de performance. Et effectivement, quand je suis passé à l'écriture du Musée Domestiqué, je me suis rendu compte que c'était un médium qui me permettait une grande liberté, qui pouvait très facilement se mêler à la vidéo, au son, enfin voilà, qu'il pouvait y avoir un entrelacement là de narration et de plusieurs médiums entre vidéo, littérature et son. Et donc l'écriture de ce roman, ouais, a été effectivement une forme d'aboutissement. Oui, c'est ça, on peut dire ça.
Tu me parlais tout à l'heure d'une symétrie littérature-image. Comment ça fonctionne chez toi ?
Je peux pas m'empêcher de produire des images. Donc avant, si on veut, c'était le texte qui accompagnait des images ouais, le texte venait en accompagnement de l'image, et aujourd'hui, c'est l'image qui vient en accompagnement du texte, quoi. Et qu'effectivement, il y a cette idée d'une symétrie ou d'un axe entre lequel je m'amuserais à sauter, quoi, et tour à tour être d'un côté ou de l'autre, quoi.
Comment tires-tu des textes dans ta production ? Je pense par exemple à la vidéo Gourdoulou, où l'on peut suivre la déambulation d'un être bicéphale, d'un personnage à cheval sur un autre personnage. Y aurait-il des textes à l'origine de tes œuvres ?
Gourdoulou, c'est le texte en tout cas qui fait naître, qui convoque des images, quoi. C'est le roman d'Italo Calvino, le Chevalier inexistant, qui est en fait, ou la découverte de ce texte qui est concomitante avec cette figure, ce personnage que j'ai imaginé d'un personnage en portant un autre, sans que ni le porté ni le porteur ne se rendent compte de sa condition. Et je sais pas, je voyais là-dedans des échos, effectivement, au texte d'Italo Calvino. C'est plus quelque chose, enfin, c'est comme si la lecture et la découverte de ce texte se fait en parallèle de la production de l'œuvre, quoi. Et après, sur celle-là, sur Gourdoulou, ce qui était comme une, un point de départ vraiment qui a allumé la mèche, c'est cette phrase qu'on entend au tout début du film, qui est c'est la voix d'Alain Robbe-Grillet en fait qui cite Shakespeare et Macbeth. J'ai dans la tête d'étranges choses qui réclament ma main et qui demandent qu'on les exécute avant de les examiner de trop près. Qui est comme l'annonce un peu du programme du film de Gourdeloup. C'est-à-dire un personnage qui fait les choses sans savoir pourquoi il les fait, qui les vit sans savoir pourquoi il les vit, et qui a besoin d'en passer par le geste et par l'action avant de pouvoir appréhender la raison de pourquoi il fait les choses.
Tu parles aussi de Don Quichotte, de Jacques le Fataliste, peut-être de Rabelais ou de Swift.
Ouais, parce que là aussi, c'est toute une tradition de littérature picaresque et même de cinéma, où souvent des personnages voyagent côte à côte, vivent des aventures côte à côte. Et l'idée, c'était simplement par un effet, pas de juxtaposition, mais de superposition, d'imaginer comment ces personnages pourraient évoluer en étant... l'un sur l'autre et non côte à côte, quoi.
Lors de l'entretien que tu m'as accordé il y a plusieurs mois, tu me parlais des relations que tu as avec tes lectures et à ton écriture. Tu faisais notamment une métaphore assez drôle sur les parties tennis que tu faisais lorsque tu étais adolescent.
Effectivement, j'ai jamais autant lu qu'au moment que pendant les 4 ans où j'ai écrit le roman Malakoff. Et que moi, je suis pas un lecteur. J'alterne avec des phases où je me cultive assez peu, en fait, je dois avouer. Et des phases où ça d'accélération ou de boulimie, parce que je me remets au travail, parce que c'est motivé par un projet et j'ai besoin de me nourrir. Et donc, effectivement, j'ai jamais autant lu qu'en écrivant ce roman. Et notamment. Parce que, effectivement, il y a cette idée, quand j'étais plus jeune et que je jouais au tennis, on regardait Roland-Garros avec les amis, et dès que les matchs étaient finis, on filait sur le terrain, et on avait l'impression qu'on avait encore les gestes, la justesse des gestes dans l'œil, et qu'on arrivait à les reproduire plus facilement. Et donc il y a un peu de ça, quand je lis... Par exemple, quand je fais une pause dans une journée d'écriture parce que je cale un peu, si j'ouvre un livre de Jean Echenoz et que je me remets très très vite à écrire après avoir lu du Echenoz pendant 5 minutes, j'ai l'impression que je prends un peu son aspiration et que ça me propulse à nouveau pendant un temps, quoi. Donc je me sers de la lecture pour ça, pendant mes journées de travail, pour me relancer, quoi.
J'ai été troublé par la ressemblance, presque la redondance, de ton film 858 pages plus au sud et de ton roman Malakoff. Je me trompe peut-être ?
Non, c'est pour moi 858 pages plus au sud et la vidéo Guéranos, c'est presque des hors-champs en fait du roman. Enfin, c'est des œuvres qui se répondent. Et en ce sens, tu parlais tout à l'heure, enfin tu posais la question de savoir si c'était un aboutissement. En tout cas, c'est certain que le roman est un prolongement de ces deux œuvres, notamment. Parce qu'il approfondit, effectivement, comme dans 858 pages plus au sud, l'idée d'une forme de fiction ou de mise en fiction de soi-même, de sa propre biographie. Parce qu'il rejoue la figure du père, la figure d'Ulysse aussi. Donc oui, c'est effectivement un prolongement de ce film. Ouais.
J'ai noté que dans ton travail, il y avait plusieurs figures récurrentes, notamment celle du père, quelque peu en creux. Moi qui ai lu ton roman Malakoff avant de voir le film, 858 pages plus au sud, j'ai été troublé de voir se matérialiser des personnages du roman, de voir ta sœur par exemple.
J'aime bien l'idée que quand tu lis les différents récits, alors bien sûr je les ai pas tous lus, mais loin de là, mais quand tu lis un peu la mythologie grecque, j'aime beaucoup la façon dont les personnages passent d'une histoire à l'autre, se retrouvent au centre d'un récit, deviennent des personnages plus lointains dans un autre. Et j'adore par exemple dans le cinéma d'Arnaud Desplechin, qui est un cinéaste qui compte beaucoup pour moi, on retrouve constamment, d'une histoire à l'autre, il redonne les mêmes noms à ces personnages, même si c'est plus tout à fait le même. Et puis un type qui était le père dans un va devenir le fils dans l'autre. On va retrouver un tel va avoir, par exemple, il y a toujours Ismaël, Elias dans ses romans, dans ses films, dans Un conte de Noël. Catherine Deneuve s'appelle Junon. Enfin, il utilise comme ça des noms de divinités ou de et en fait tout ça est très fluide. Presque liquide, quoi, et la façon dont les histoires et les personnages se déplacent et reviennent sous d'autres formes, d'autres identités. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, quand je travaille, j'essaie de prendre en compte un peu la profondeur de champ. Enfin, ça fait pas longtemps, hein, c'est à peu près 10 ans d'une production qui est pas hyper dense non plus. Mais... j'essaie maintenant, quand j'imagine un nouveau projet, de prendre en considération ce que j'ai fait avant et d'écrire quelque chose qui serait de l'ordre d'une petite mythologie personnelle et de personnages récurrents, de lieux récurrents qui se métamorphoseraient au fil de chacun des projets que je peux mettre en scène. Ma sœur, ma mère, mon père, la ville de Haguenau, qui dans le roman de Malakoff, par exemple, ça prend un autre nom, ça s'appelle Avenau. Mais voilà, tout ça, c'est comme des sortes de figures avec lesquels je m'amuse à jouer ou à essayer de créer de nouvelles situations, quoi, de nouvelles triangulations entre ces personnages et la façon dont ils peuvent revenir habiter le travail, on va dire.
Et cela va perdurer dans tes prochains travaux ?
J'imagine, oui, que ça va revenir. Je ne sais pas sous quelle forme. Enfin, c'est pas une obligation, mais en tout cas, ces œuvres où on peut, à travers lesquelles on peut tirer un fil. C'est quelque chose que moi j'ai toujours aimé en tant que spectateur et que j'ai envie de reproduire au sein de mon travail, quel que soit le médium, quoi. Ou que quelle que soit la fluctuation du médium, il y a un certain nombre de motifs et de figures qui se répètent, quoi, qui reviennent.
Revenons sur le musée domestiqué. Quelle est la part de vérité et la part de fiction dans cette pièce, qui est, comme je le disais, très écrite ?
Dans le musée domestiqué, tout est vrai, hein. J'ai contacté j'ai envoyé, on va dire, plus de 60 mails à des artistes, pour expliquer le projet à des artistes que je ne connaissais pas, mais dont le travail ou la trajectoire me semblait pouvoir s'accorder au projet. Y en a beaucoup qui n'ont pas répondu, un peu moins qui ont répondu non. Encore un peu moins qui ont répondu oui, mais moi, les histoires qu'ils avaient à me proposer ne m'intéressaient pas nécessairement. Et puis encore moins qui ont répondu oui et qui dont les histoires, la trajectoire de certaines œuvres correspondaient complètement au projet. Donc, et au sein de ça, effectivement, tout est réel. Après, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est-à-dire que tous les faits sont réels. Après, la façon dont ils sont articulés, ça, moi, je le remets en scène, quoi. La fiction, elle est plus dans l'articulation des choses et des éléments que dans les éléments eux-mêmes, quoi. Donc, l'histoire de chaque œuvre, la biographie de chaque artiste, la généalogie de chaque exposition, etc., tout ça est réel, puisque je voulais aussi que ça fasse œuvre presque un peu anthropologique, quoi, sur une époque de l'histoire de l'art en France, qui était la fin des années 80, le début des années 90, avec des noms qui reviennent, des noms de lieux, de centres d'art qui parfois ont disparu. Enfin, donc la fiction n'intervient que dans l'articulation des choses.
Le héros de Malakoff a la manie de chaparder des livres et d'en faire une petite collection. Une petite collection de livres volés. C'est aussi de la fiction ?
Ouais, le narrateur explique que effectivement, dans le centre d'art où il est en résidence, il vole un livre dans la bibliothèque, qui en l'occurrence, c'est pas dit, mais était un petit livre de deux vidéastes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gusmão et Paiva, deux vidéastes portugais. Alien Theory, je crois, ou quelque chose comme ça, qui faisait suite à une exposition d'eux à la Maison Rouge, je crois. Donc voilà, je vole ce petit livre dans la bibliothèque, dans les archives du centre d'art, et le personnage explique qu'en effet, il a pour habitude ou tradition de voler de temps en temps un livre dans les endroits dans lesquels il passe. C'est un voleur qui a une petite éthique quand même, puisqu'il explique qu'il ne vole que des formats poche et pas plus d'un par victime, on va dire. Et qui s'est créé chez lui un rayonnage de sa bibliothèque dédié à ses livres volés. Mais au-delà du vol, ce qui me plaît, ce qui intéresse le personnage, c'est que personne ne sait en fait que ses livres sont volés à part lui. C'est-à-dire que moi, si on prenait un livre dans ma bibliothèque qui n'est pas non plus immense, mais à part peut-être une dizaine d'ouvrages qui me sont vraiment essentiels, je serais bien en peine de savoir qui me manque tel ou tel exemplaire de tel ou tel auteur. Donc ça me plaît. Le personnage explique que parfois ses victimes, puisque c'est souvent des amis venant chez lui, détaillent les ouvrages qu'il y a dans la bibliothèque et en fait passent à côté d'un ouvrage qu'eux-mêmes n'ont plus sans forcément le savoir. Donc je trouvais ça assez beau, l'idée d'un rayonnage de bibliothèque qui soit uniquement fait de livres disparus sans que personne ne le sache et sans que personne ne les réclame. Voilà. En l'occurrence, je note à chaque fois le nom de la personne à qui je l'ai prise pour que si un jour elle me le demande, je puisse le rendre. Voilà, donc ça, et puis en l'occurrence, ça c'est typiquement le genre en fait, d'idées qui me séduisent, mais qui me semblent trop fragiles pour faire œuvre. Mais une fois qu'elles sont intégrées à une narration plus ample, peuvent devenir quasiment ouais, de l'ordre d'un geste artistique, comme ça, un film qui prend une page à raconter, enfin voilà, je vais pas en faire une photo, je vais pas essayer de me demander comment je vais exposer ça, c'est un fait qui est chargé d'une forme de poésie, et il n'y a pas beaucoup plus à s'attarder là-dessus que ça, quoi. Donc c'est ce qui me plaît bien dans l'écriture romanesque, c'est de pouvoir glisser comme ça presque en contrebande à l'intérieur du texte enfin c'est un peu l'histoire d'Édouard Levé quoi et de ses œuvres qui n'ont pas nécessairement existé ou qu'il n'a pas réalisé quoi voilà passer un peu des gestes d'art contemporain à l'intérieur d'un romanesque plus ample quoi.
Et ces gestes, ta pratique d'artiste vidéaste, d'artiste plasticien, tes œuvres en fait nourrissent ce roman Malakoff. Les références à l'art sont aussi denses et nombreuses que celles à la littérature. C'est important pour toi?
En fait, quand j'écrivais ce roman, et même pour la suite, je me demande s'il est possible d'écrire, enfin, ouais, de faire œuvre plastique avec un livre, quoi. Et du coup, cette formation que j'ai d'artiste visuel et des expositions, etc., fait que, ben, finalement, en écrivant le livre, je me suis dit, ben voilà, moi, le format de l'exposition, c'est quelque chose qui m'intéresse plus, en fait. Ça m'intéresse plus d'investir des lieux désincarnés, froids, dans lesquels personne ne vient, en fait. Et que le format du livre, c'est aussi un volume blanc à habiller, à habiter. Et qu'en fait, ça me semble être un white cube beaucoup plus chaleureux, le format du livre. Donc, en ce sens, la façon dont j'espère l'investir, c'est comme un plasticien, quoi. Et après, le fait est qu'avec Malakoff, ça parle explicitement d'art contemporain. Donc évidemment, on fait le rapprochement. La question que je me pose, pour la suite des aventures, c'est de savoir si, on peut sentir ce bagage de plasticien en racontant une histoire qui ne parle pas d'art nécessairement. Dans Malakoff, c'est explicite, le personnage est artiste, vit dans un centre d'art. Est-ce que j'arriverai à écrire un autre livre, à raconter une autre histoire qui ne parle pas explicitement d'art, mais qui soit malgré tout, qui puisse malgré tout être raccroché à ça? C'est un peu le défi, enfin voilà la question que je me pose de savoir comment je pourrais faire ça, quoi. Et après, étant donné que effectivement le livre est rempli d'images qui s'entremêlent à la narration, là encore dans le plaisir de fabriquer, de l'archive, du faux document, etc., c'est aussi quelque chose qui, moi qui vient de mon goût de plein d'artistes qui ont utilisé l'archive, que ce soit des performeurs comme Bastien Nader ou Gina Payne, enfin des gens comme ça qui... D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'on dit Gina Payne ou Gina Pan, tout simplement, parce que hein, ouais, cet accent anglais qui ne sert à rien, là. Mais voilà, j'aime bien l'ambiguïté de ces archives, parce que finalement, on nous présente les restes d'un geste artistique auquel on n'a pas assisté, et il nous est demandé d'y croire sur la simple base d'une archive qui pourrait très bien être une construction fictive. Et ça me plaît beaucoup, quoi. Et en fait... Ça me plaît et ça rejoint cette idée de plus forcément vouloir investir le White Cube, c'est que j'ai pas besoin de le voir accroché sur un mur blanc pour l'apprécier. Ça peut être imprimé sur une page, en fait, ça me suffit, quoi. Les photos de Bastien Nader, par exemple, enfin, à la recherche du miracle, je crois c'était In Search of Miraculous, son départ en bateau, etc. Ben, je préfère être assis dans un fauteuil à apprécier cette image sur papier. Qu'autrement, quoi. Donc, l'espace du livre me convient aussi. Enfin, convient, je trouve, à ces gestes et à leur archivage, quoi.
Et je te parlais tout à l'heure de Patrick Corillon. Lui, il dit qu'il a besoin d'un qu'il n'a pas pu être uniquement écrivain ou vidéaste, qu'il avait besoin du support de l'objet, quoi. Et c'est drôle, parce que c'est un excellent support, je trouve. Et toi, dans le premier entretien qu'on a fait, tu me parlais de l'artiste éponge, un peu comme ça. Je crois que tu en étais même un peu triste, quoi, des choses de l'accumulation de références et d'idées pour pouvoir recracher ensuite tout ça.
Ouais.
Est-ce que ça va être encore le cas pour les prochains tes prochaines créations, tes prochaines œuvres, vers quoi tu te diriges, en fait?
Bah, en fait, je pense... Enfin... Le truc de l'éponge... Enfin, c'est parce que... Effectivement, moi, je me souviens d'un... Je crois que c'était un professeur aux Arts Déco qui s'appelle Philippe Lepeu, qui m'avait dit ça un jour. Enfin, qui se plaignait un peu du fait que... Effectivement, que les étudiants en école d'art, et qui deviennent ensuite... de jeunes artistes qui avaient souvent un côté, c'est ce qui est mon cas, hein, utilitaire dans leur lecture, dans les films qu'ils vont décider d'aller voir, etc. Enfin, que tout doit pouvoir à un moment donné servir ou être recyclé, etc., réémerger sous d'autres formes. Enfin, et qu'il y a assez peu, moi je le découvre, enfin, je pense que j'étais beaucoup plus curieux et ouvert. Dans mes lectures ou mes goûts cinématographiques en construction, enfin je sais pas, quand j'avais 16-17 ans, qu'aujourd'hui, quoi, où mon goût est plus sûr, enfin où je vais moins facilement aller vers quelque chose dont j'ai pas entendu parler, enfin donc il y a, on met un peu en sorte, enfin c'est comme les algorithmes là sur Deezer ou Spotify, que, sauf qu'on se les crée nous-mêmes, mais voilà, il y a peut-être une curiosité. Une ingénuité qui disparaît, quoi, un peu avec le temps et le fait de se professionnaliser, quoi.
Et puis dans tes lectures, c'est de plus en plus dur d'être surpris, j'imagine.
Bah, après, ça arrive. Enfin, moi, je sais que voilà, des auteurs qui comptent beaucoup pour moi, comme Sebald, Villamatas et Raymond Roussel, par exemple, je les ai découverts tous. En 2015, d'un coup, c'était comme si j'avais vécu trois coups de foudre en une année. Donc voilà, même assez tardivement, on découvre voilà, des choses qui nous deviennent complètement vitales assez tardivement, quoi.
Tu as lu le... Comment ça s'appelle, Raymond Roussel, comment...
Non, celui-là, j'ai pas lu. Non, quand je parle de Roussel, c'est Locus Solus, okay. Surtout... qui a déjà été suffisamment compliqué à lire et à relire pour que...
Ouais.
Mais ouais, c'était un moment où ça suivait aussi une exposition que François Piron avait sur les commissariats.
Génial.
impressions, nouvelles impressions de Roussel ou impressions de Roussel. Et puis, ben, justement, où je découvrais Francisco Tropa, enfin, des artistes qui se sont beaucoup inspirés. Et voilà, je découvre comme ça l'aura que cet auteur a auprès des plasticiens. Et moi, en l'occurrence, c'était à l'époque du musée domestiqué, puisqu'il y a beaucoup ce qu'on appelle l'ekphrasis, enfin, la description littéraire des œuvres d'art. Et je m'intéressais à ça, parce que mon problème pour le musée domestiqué était de décrire des œuvres d'art qu'on ne voyait pas nécessairement à l'image ou sur scène. Et donc, chez Roussel, dans Locus Solus, c'était pour ça que je m'étais penché dessus, et après que je l'ai apprécié, quoi.
Quand on rentre dans cette boucle, ce Bald, Echnoz, Villamatas, c'est dur d'en sortir. Dans l'entretien que tu m'avais accordé en juin 2020, on avait pas mal parlé de Villamatas, un auteur qu'on aime beaucoup tous les deux. Une chose que j'ai trouvé drôle, tu m'as dit que tu essayais d'être une sorte de contre-exemple de Villamatas.
Effectivement, parce que... Oui, ce que je te disais, c'est une lecture... Que j'aime ou pas, c'est un auteur qui me fait réfléchir toujours, et c'est une lecture qui pour moi est toujours très vivante, et donc notamment parce que effectivement, en découvrant son œuvre, je me suis senti autorisé à plein de choses, notamment dans le musée domestiqué, à me mettre en scène à l'intérieur de cette recherche, voilà, d'œuvres d'art qui restent sur les bras, etc. Enfin, c'est un auteur qui m'a poussé à tenter des choses, et puis en fait, plus je l'ai lu, plus j'ai découvert son œuvre, plus j'ai découvert certaines récurrences dans ses livres qui parfois me semblaient être des façons un peu habiles de retomber sur ses pattes. Enfin voilà, il y avait quelque chose. Je trouve qu'il n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'il met en place à l'intérieur de ces machines de fiction, quoi. Et aussi, il y avait chez lui une sociologie, enfin, où il y a chez lui une sociologie qui me gêne un peu, qui est toutes ses amitiés intellectuelles, son amitié avec Dominique González Forster, les hôtels, les grands hôtels dans lesquels il va, enfin, du coup, une forme de dandysme comme ça qui ne correspond pas ni au milieu d'où je viens, ni à la façon dont j'ai envie d'incarner la figure de l'artiste. Et que du coup, bah, par exemple, voilà, dans Malakoff, c'était presque une volonté pour moi, quand, par rapport à ce que je pouvais lire de Villamatas, de parler d'un artiste qui avait aussi des problèmes d'argent, qui boit pas de cocktail mais de la bière, enfin, qui est pas à Paris mais qui tourne le dos à Paris et qui est toujours en périphérie, enfin, et
qui prend le bus,
voilà, exactement, qui prend les bus Macron, et voilà, qui, enfin, la beauté, elle est pas obligée de se développer que dans les hautes sphères, comme ça. Puis après, ça ressemble à ma vie aussi, quoi, tout simplement, comme sans doute la vie de Villamatas doit être telle qu'il l'a décrit dans ses livres, ou en tout cas la sociologie dans laquelle il évolue au quotidien, quoi. Mais voilà, qui est pas la mienne, et ça, c'est un programme esthétique aussi, quoi, de revendiquer ça, quoi.
J'ai une question sur l'appartement du Centre d'art de Malakoff. Pourquoi lui avoir donné cette importance ?
Bah parce que déjà, j'y ai habité pendant 4 mois, et que j'ai du mal quand j'écris, j'espère que ça changera un jour, mais j'ai beaucoup de mal à faire abstraction de mon corps au travail en train d'écrire la fiction. Enfin, du coup, c'est peut-être lié à la pratique que j'avais de la performance. Mais c'est-à-dire que je peux pas, si tu veux, je sais pas comment dire, raconter une histoire en faisant abstraction que je suis en train de la raconter. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je pourrais pas écrire, par exemple, « je nage », parce que non, je nage pas, je suis en train d'écrire que je nage. Et... Ou alors ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois dans un lac avec un calepin, tu vois, en train d'écrire en même temps que je nage. Enfin, il y a une sorte de présence de mon corps quand j'écris, et du contexte dans lequel j'écris, dont je peux pas faire abstraction. Donc c'est pour ça que souvent, dans le musée domestiqué, ou dans même dans 850 pages plus au sud, enfin, il y a l'histoire, et puis il y a moi qui raconte l'histoire, quoi. Et donc il y a ça, et donc au moment évidemment où j'écrivais le début du roman, j'étais dans le centre d'art, donc je pouvais pas faire abstraction de ça. C'est aussi pour ça que la forme du journal s'est imposée. Après, il y a aussi le fait que Souvent, le milieu de l'art, quand il est abordé dans la fiction, c'est souvent sous la forme de la satire. C'est pour parler de Jeff Koons, c'est pour parler de Damien Hirst, du marché de l'art international, et c'est jamais pour parler du ventre mou dont on fait partie, du ventre mou de l'art contemporain français dont on fait partie, qui est bien plus touchant, je dirais. Enfin, voilà. Donc,
Complètement.
ouais, on n'est pas tous les jours à la FIAC, etc. Enfin, même. Donc, ou en train de prendre des avions, ou tirer des cocktails avec Xavier Veillant, quoi. Donc, j'avais envie, en le mettant, en situant la scène au cœur du centre d'art, à la fois de parler à mes collègues ou à mes amis artistes de ce qui est notre vie à beaucoup, et puis pour les gens qui connaissent pas ce milieu, de leur montrer ben voilà, qu'il n'y avait pas que Jeff Koons, quoi, et qu'il n'y avait pas que le Louvre à Abu Dhabi ou Dubaï ou je sais pas quoi. Enfin, donc c'était une façon de parler du quotidien très concret d'un centre d'art, où d'ailleurs souvent, moi j'ai souvent eu cette expérience où parce que il y a l'espace du White Cube dans Malakoff, et il y a ces bureaux et cette mansarde qui sont au dernier étage du centre d'art que le public ne voit pas. Et il y a un effet souvent dans les centres d'art où, quand on se dit ah bah, j'ai trop de chance, je suis invité pour faire une exposition à tel endroit qui nous semble, vu de l'extérieur, assez idyllique. Et puis en fait, on se rend compte que c'est des structures où il y a trois personnes qui bossent, qui sont une sorte ouais, d'intellectuels précaires, enfin de gens qui font aussi avec des bouts de ficelle, qui demandent si tu peux pas toi-même écrire ta biographie pour le journal de l'exposition. Enfin, du coup, tout un truc où une fois qu'on voit comment ça fonctionne, et c'est pas une critique, hein, que je fais, mais on voit les manques de moyens, on voit que. Et j'ai souvent eu ça où quand tu es. En fait, c'est comme une métaphore un peu de ça. C'est, je vais voir une expo, et puis j'ai l'impression que les murs sont parfaitement blancs et que tout est nickel. Et puis plus je reste, plus je commence à voir ici un trou de vis, ici ça a été pas super bien repeint. Enfin, et donc comme si il y avait un vernis qui se craquelait et une réalité artistique et matérielle et économique qui, comme ça, qui se révèle. Et finalement. À part les artistes ou les gens qui travaillent dans les centres d'art, le public y passe très rapidement, quoi, dans ces lieux, qui du coup, effectivement, on a l'impression que c'est des lieux comme ça, assez éthérés, quoi, enfin, qui sont pas vraiment incarnés, qui sont des sortes d'espaces blancs parfaits. Et en fait, plus on y vit, plus, je sais pas, il y a une qualité particulière de la poussière, il y a une lumière, c'est, tu vois, particulière. Moi, je sais, j'ai des corps flottants, tu sais, je vois des toi aussi. Et vivre, alors c'est rien du tout, mais je veux dire, ça ressort toujours quand je suis dans les white cubes, quoi. Tu vois, et ça me fatigue de voir ça. Donc c'est pas pareil, voilà, de traverser ces lieux en tant que spectateur ou en tant que créateur, enfin, et d'y habiter, quoi. Et étant donné que le personnage est un peu en crise de créativité, je crois qu'il se pose aussi la question. Enfin, il dit que finalement, s'il veut arrêter de produire, la seule façon qu'il a d'occuper ses espaces, c'est d'y habiter, quoi. S'il n'y montre plus rien, c'est d'habiter directement dedans, quoi, et de faire œuvre de ça. Enfin. Donc bon, voilà pourquoi le centre d'art comme habitat possible est au cœur du roman, quoi.
Pour finir, penses-tu que la lecture agit sur ta création? Est-ce qu'elle t'inspire des œuvres, par exemple?
Non, elles inspirent, ou alors, enfin, non, je pense que l'idée, elle préexiste quand même toujours. Alors par hasard, comme je disais pour le chevalier inexistant, enfin, il peut se faire qu'en parallèle, enfin, est-ce que c'est du hasard ou pas, mais que des lectures parallèles viennent nourrir le projet. Mais par exemple, pour une pièce comme Guéranos, j'avais l'idée de ce personnage qui tomberait autour d'un bâton. Enfin, et je connaissais déjà, enfin, toute l'histoire de Thésée. Je ne sais pas comment dire. Non, c'est difficile de définir le point de jonction précis entre une œuvre et ce qu'il a inspiré directement ou pas, quoi. Mais pour rejoindre ta... Pour être bon, moi je me suis rendu compte l'autre jour, j'ai écrit un mail à quelqu'un qui me parlait d'un projet, et puis je lui ai dit, mais il faudrait que tu ailles voir... Enfin, je me dis, il faut qu'elle aille voir cette exposition de Bertrand Lavier, qui avait fait un projet où il réunissait que des peintres amateurs, qui s'appelait Dupont. Et puis... Donc je lui ai écrit ça, et je me dis, bah, je vais chercher un lien sur Internet, enfin un truc là-dessus, quoi. En fait, je trouve rien, quoi. Et je cherche, et je crois que Bertrand Lavier n'a jamais fait ça.
C'est pas vrai.
Mais je sais, enfin, ça ressemble à du Bertrand Lavier, quoi. Ça pourrait être une expo avec que des peintres trouvés chez Emmaüs, où la peinture est signée Dupont, ça pourrait être lui, quoi. Et c'est impossible à trouver, et donc je me demande si... ouais, peut-être quelque chose à faire aussi sur les œuvres qui n'existent pas et qu'on prête à des artistes...